Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète.
Salut sportif, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter est toujours à mes côtés pour co-animer cet épisode. Salut Olivier.
Salut Armano.
Et nous avons toujours notre invité Juliana Antero. Salut Juliana.
Salut Armano. Salut Olivier.
On a choisi de parler pour ce dernier épisode et ben non seulement de la représentativité encore des hommes et des femmes dans le sport et puis surtout savoir comment est-ce qu'on pourrait augmenter le nombre de pratiquants et puis aussi sujet de santé publique, qui est la sédentarité naissante des gens.
Parlons de la sédentarité et on peut finaliser par le nombre de pratiquants.
C'est un peu lié finalement, hein. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens se mettent au sport, que ce soit plus de femmes ou que ce soit dans la globalité. Je pense que c'est des sujets qui sont un peu liés. En off, justement, Juliana nous demandait c'est quoi votre objectif avec votre podcast. Et je pense que c'est la première fois qu'on nous pose la question comme ça de manière... aussi direct et en fait c'est vrai que je pense que la première réponse qui est venue c'était de parler justement du problème qui est pour moi un vrai problème de société qui est la sédentarité et bon Juliana pourra en dire peut-être un petit peu plus là-dessus, je pense qu'elle elle connaît mieux le sujet que moi mais effectivement enfin moi ce que j'avais retenu comme information c'est que la sédentarité avait augmenté de 10% sur les 15 dernières années en Europe. Or, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que une personne sédentaire augmente son taux de mortalité de 20 à 30% par rapport à une personne qui est active. Donc c'est quand même quelque chose qui est énorme. Juliana, tu pourras nous en dire un petit peu plus. Mais donc voilà, l'objectif du podcast, bah, c'est aussi de pouvoir contribuer à mettre un maximum de gens au sport. Alors par le triathlon, ça peut être par d'autres choses. Il y a plein d'autres beaux sports évidemment. Nous, on a choisi le triathlon parce que c'est un peu notre truc à Hermano et moi. Mais voilà, c'était ça effectivement l'objectif.
Oui, en effet, la sédentarité c'est un gros problème de santé publique puisque c'est l'un des facteurs de risque principal pour les maladies non transmissibles et c'est la quatrième cause des décès au monde. Donc c'est terrible la sédentarité et nous à l'INSEP nous avons fait un certain nombre d'études pour identifier quels étaient les bénéfices pour les sportifs de niveau en termes de durée de vie et c'est hyper intéressant parce que nous avons trouvé que hommes et femmes parce que nous avons mené bien sûr les études aussi chez la femme et il s'agit des cohortes historiques et qu'on appelle parce qu'ils sont des données historiques et nous avons observé que les sportifs de niveau il vit en moyenne 7 ans de plus que la population en général donc c'est très bénéfique de faire un sport même à très haut niveau. Donc ça, c'est un premier message important. Et malheureusement, en effet, il y en a en France moins de pratiquantes femmes que d'hommes. Et ça commence dès l'adolescence.
Ça veut dire qu'il y a plus de femmes sédentaires que d'hommes sédentaires ?
Il y en a moins de pratiquantes, oui, femmes que hommes. Et notamment, et cet écart entre le nombre des pratiquants commence déjà dès l'adolescence. Et il y en a un peu plus des femmes sédentaires, même aux âges adultes, okay. Les âges plus élevés.
Quand on parle de sédentarité, on parle de quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique ou quelqu'un qui ne fait pas de sport?
C'est quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique.
D'accord. Donc quelqu'un, par exemple, qui est, je sais pas, a un métier très manuel ou très physique, on le considère pas comme étant une personne sédentaire.
Tout à fait. Et par exemple, quelqu'un qui prend son vélo pour aller au boulot, c'est déjà considéré comme non sédentaire. Parce qu'on parle beaucoup, hein, le sport, il expose les pratiquants à un certain nombre de risques. Oui, on peut blesser de la cheville, on peut faire une rupture dans le ligament du genou. Par contre, on n'en parle peut-être pas assez que passer les soirées à regarder la télé, c'est un risque majeur pour le système cardiovasculaire et immunitaire. Donc, regarder la télé aussi a son risque, mais c'est un risque silencieux et c'est à long terme.
Mais c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit finalement, je me pose dans mon canap pour regarder la télé, je prends plus de risques pour ma santé que si j'allais faire du sport, du vélo ou autre.
Oui, et ce sont les études scientifiques qui les montrent. C'est prouvé que la sédentarité, c'est vraiment un facteur de risque de décès majeur.
Tu disais qu'un sportif de haut niveau vit en moyenne 7 ans de plus qu'une personne sédentaire. Quelle est la différence entre alors la personne qui est non sédentaire, donc on va dire une personne active, versus les athlètes de haut niveau? Parce que souvent, moi c'est vrai que j'entends dire dans mon entourage, oui mais toi, vous les triathlètes, vous faites trop de sport, c'est bien de faire du sport, mais il faut pas en faire trop, vous allez trop loin, vous êtes dans l'extrême, c'est pas bon. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des statistiques par rapport à ça?
Oui, c'était tout l'objet de ma thèse quand j'ai fait mon doctorat à l'INSEP.
Ah bah super.
Parce que nous avions aussi beaucoup entendu ah oui, faire du sport, c'est bon, mais pas trop. Et c'est d'où c'est né ce projet d'étudier la durée de vie, la longévité des sportifs de nouveau. Donc, nous avons étudié tous ceux qui ont fait tous les participants français de Tour de France depuis 1947. Nous avons étudié tous les athlètes français et américains qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896. Et ces constats, ils viennent de là. En moyenne, les sportifs de niveau vivent 7 ans de plus, qu'ils fassent les Tours de France, qu'ils soient en rameur, qu'ils soient dans tous les sports olympiques que nous avons observés, une augmentation de leur espérance de vie vis-à-vis la population générale. Mais en population générale, quelqu'un qui fait du sport, il vit aussi plus longtemps que quelqu'un qui ne fait pas de sport. C'est ça que c'est très, très important. En fait, en moyenne, une personne qui fait du sport, déjà à partir de 15 minutes par jour, il a une mortalité réduite d'environ 20%. Donc déjà, 15 minutes par jour, c'est sorti de la case sédentaire vers la case « j'ai fait du sport ». Plus on en fait, et c'est ça que c'est intéressant de savoir, plus on gagne en termes d'espérance de vie. Du moment qu'on fasse une pratique et qu'il soit quand même encadré et qu'il respecte notre propre condition médicale.
Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'imagine que bon, il doit quand même y avoir un moment où, enfin, la courbe, elle doit faire un U entre guillemets, enfin, un U renversé. J'imagine qu'il y a un moment où, après un, je pense par exemple aux ultra trailers, aux ultra cyclistes. Enfin, il y a un moment où on fait tellement de sport qu'on n'a pas le temps de récupérer, et donc potentiellement on se fait un peu du mal.
Oui, nous avons observé certains sports qui, pour certains, risquent de laisser pauvres avoir un peu moins de bénéfices, mais on n'a jamais trouvé d'effet néfaste, mais seulement moins de bénéfices. C'est le cas par exemple des ultra endurants. En comparaison avec la population générale, ce ne seraient pas ceux qui bénéficient le plus en termes de diminution du risque des maladies cardiovasculaires. Mais attention, ils vivent plus longtemps que la population générale aussi. Mais les bénéfices se trouvent en raison de la diminution du risque des cancers, des maladies respiratoires et autres. Mais pas forcément confère une protection majeure du système cardiovasculaire, au contraire de ce qu'on pourrait penser, parce que c'est des sports de très haute endurance. Et à ces mêmes titres, par exemple, les sports des contacts directs qui se posent, des contacts avec la tête, qui sont des sports comme la boxe, les rugby, ou encore des sports hockey sur glace, football américain, c'est des sports qui exposent ces sportifs à plus des risques des maladies neurodégénératives, sont du type Alzheimer, Parkinson, démence, mais ce sont des risques individuels et spécifiques qu'on prend contre toute la population. Eux aussi, ils bénéficient d'une durée de vie augmentée, ils vivent plus longtemps, mais certains sont plus à risque pour ce type de maladies.
Remarque un peu bête, mais quid du dopage? Est-ce qu'on a des stats aussi de tous ces sportifs qui éventuellement ont recours au dopage, dont on le sait puisqu'il y a eu des tests qui se sont révélés positifs et qui pourraient éventuellement avoir un impact négatif sur leur durée de vie?
C'est un challenge d'étudier les dopages parce qu'on ne sait pas Bah, ceux qui sont dopés, on sait qu'ils sont dopés, mais ceux qui ne sont pas dopés, on ne peut pas dire qu'ils ne le sont pas, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas cette variable. Mais en termes d'études scientifiques, c'est comme ça, c'est dichotomique, oui ou non, mais on ne sait pas si ceux qui sont non dopés, c'est juste qu'ils n'ont pas été pris sur les dopages. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en disant ça comme ça, c'est peut-être un peu trop cash, mais on a étudié les Tour de France, parce que c'est là où il y a plein d'aveux des dopages. On ne sait pas si c'est pas plus que d'autres sports, hein. C'est, à nouveau, c'est très difficile de déterminer la prévalence de dopage dans tous les sports, mais on a comparé les différentes périodes parce qu'on sait que la pratique dopante, elle a changé au cours des années. Par exemple, avant, les années 80, c'était plutôt des anabolisants. Après, on va passer vers les PE. Et donc, c'est là, ça change. Et quand on regarde leur durée de vie et les risques de décès, il est strictement comparable au cours de ces périodes. Parce que c'est, comme j'ai dit, depuis 1947, on a étudié ces cyclistes. Et notre, nous croyons alors que non, il n'a pas un impact néfaste parce que c'est quand même bien maîtrisé, contrôlé, bien que ça n'est pas un néfaste pour la durée de vie, attention, hein, pour les sports, hein, bien sûr, pour les fair play et tout ça, mais parmi des sportifs professionnels aussi, où la pratique de pente, elle peut être aussi maîtrisée parce qu'elle est cachée. C'est qu'il ne serait pas, peut-être pas les mêmes pour les sportifs amateurs.
Et alors, ici, tu prends en compte plusieurs critères, donc le taux de mortalité, les maladies cardiovasculaires, les maladies non transmissibles, enfin, je ne sais pas si tu fais une distinction entre les deux, mais on ne parle pas de maladies ou de blessures plutôt biomécaniques, du fait que souvent, bah, on dit que, je sais pas, les skieurs, par exemple, bah, ils ont plus de genoux après un certain âge, les footballeurs aussi. Enfin, souvent, c'est vrai qu'on a un peu cette image du sportif qui, à 35 ans, est un peu cassé de partout, quoi.
Et puis les causes externes, le triathlète qui se fait renverser par une voiture et qui reste sur le carreau. Bon, après, est-ce que vous intégrez ça dans vos calculs? Parce que justement, si le triathlète n'avait pas pratiqué le triathlon, peut-être qu'il n'aurait pas eu ce risque d'accident.
Oui, tout à fait. Il y a des risques. C'est pas qu'il n'y a pas des risques à pratiquer du sport de niveau. Et ces risques, les deux temps plus importants, l'inertie, elle augmente. Plus la vitesse, elle augmente. Les risques des chutes, d'impact, il est bien trop important. Mais en fait, sont des risques qui sont assez visibles, parce que oui, s'il est renversé dans une route, on va le voir, la rupture d'un ligament croisé, on va le voir. Après, la rupture d'un ligament croisé du genou, c'est très très prévalent parmi les skieurs, et que ça arrive plus d'une fois pour certains sportifs, peut avoir des conséquences, des séquelles plus tard au niveau osteo-articulaire, ils peuvent avoir d'arthrose. C'est montré que certains sportifs vont en avoir. Par contre, c'est après qu'on met tout dans la balance, les risques d'avoir d'arthrose, il est présent, il est réel chez certains sportifs. Ça dépend du type de sport, mais c'est réel. Mais les risques des cancers, les risques des maladies cardiovasculaires, les risques de toutes ces décès qui sont bien plus importants, il est diminué. Donc à un moment donné, il vaut peut-être, c'est à chacun de choisir, mais sauf que on peut pas vraiment les choisir, c'est la vérité. Mais on peut avoir plus de risques, mal au dos, mal au genou, mais moins de cancer et moins d'infarctus.
Bon, quitte à choisir, vaut peut-être mieux se péter une jambe que de finir avec un pacemaker. C'est ça ce que tu veux dire?
Après, il faut aussi, c'est important de savoir, ce sont des études des populations. Là, c'est différent de l'étude qu'on mentionnait lors des épisodes précédents, qui ont parlé d'un suivi individuel. Là, c'est un risque collectif. Mais dans cette population, il y aura certains qui, malheureusement, ils auront peut-être un accident des routes. Et pour avoir un décès sur les coups, bah pour cette personne, oh, ça n'intéresse pas du tout toutes ces statistiques. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans les points, pour les points de vue de la santé publique, c'est de savoir si, pour cette population sportive, le sport il est néfaste. Non. Et la réponse est non. Le sport il est extrêmement bénéfique. Mais on ne peut pas contrôler les risques individuels.
Alors, pour revenir un petit peu sur l'étude Empower et plutôt sur la place des femmes dans le sport, on a commencé cet épisode en disant que l'autre question du jour, ce serait comment on pourrait augmenter aussi la part de pratiquantes dans le sport. Est-ce que toi, tu as des idées, des pistes là-dessus? Parce que on dit quand même qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Pourtant, il y a moins de pratiquantes que de pratiquants. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance ou un peu essayer de l'équilibrer?
Je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'ai quelques éléments de réflexion. La première chose, c'est peut-être donner un peu plus de visibilité au sport féminin. Et je pense comme ça, c'est comme pour les choix de métiers. Plus on se voit représenté dans un certain métier, on se voit représenté dans un certain sport. Peut-être les jeunes filles, les nouvelles générations peuvent se dire, ah, peut-être c'est moi la prochaine championne olympique, ou peut-être juste de dire, ah, mais je peux aussi pratiquer ce sport. Je vais parler, parce que c'est mon côté brésilien, mais on a eu une skateuse aux Jeux Olympiques, elle a pris la médaille d'argent, c'est Raissa Leão. Elle a 13 ans, elle a eu là à Tokyo sa médaille olympique. Les jours qu'elle a eu sa médaille, le lendemain, le nombre des ventes des skates pour les filles a monté énormément au Brésil. Et je pense que ça montre, c'est comme c'est intéressant, cette représentation. Mais que les jeunes filles peuvent se dire, ah, mais moi aussi, je peux faire du skate. Donc, j'y crois à cette question de la visibilité du sport féminin pour augmenter le nombre des pratiquantes. Et j'y crois tellement que nous, avec Empower, nous avons créé notre compte sur Instagram, qui s'appelle Empower, _, c'est les tirées d'huîtres sportives, qui en parle des questions des spécificités féminines, de l'influence du cycle menstruel sur la performance, de la gestion du poids, des formes, qui sont des spécificités vraiment féminines et qui, d'en parler, ça permet aussi de mieux gérer sa pratique sportive. Et c'est peut-être aussi l'une des clés, parce que j'ai parlé tout à l'heure que beaucoup des pratiquantes, l'écart entre la pratique sportive commence à augmenter vers l'adolescence. C'est là aussi que les filles vont rencontrer leurs règles. C'est là aussi qu'elles vont peut-être être gênées de pratiquer du sport, que leur corps commence à changer et qu'elles se sont peut-être plus visibles et ou plus gênées. Et d'où l'intérêt aussi d'en parler et d'ouvrir cette voie pour le sport féminin. Mais c'est aussi ouvrir une voie d'opportunité, d'ouvrir plus des conditions aussi aux athlètes femmes qui essayent de monter vers le haut niveau, de pouvoir y accéder grâce à plus de financement, grâce à plus de soutien, grâce à plus peut-être des sponsors aussi. Donc ce sont plusieurs hypothèses, plusieurs éléments de réponse pour ta question, Herman.
Oui, il va falloir qu'on invite plus d'athlètes féminines sur le podcast, Herman.
Voilà, pour avoir une plus grande représentativité et donner plus envie à nos auditrices et nos auditeurs. Ou plutôt à nos auditeurs, qui sont quand même beaucoup plus nombreux, d'aller chercher des auditrices et des pratiquants.
C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée.
Juliana, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Tu as parlé du compte Instagram Empower_sportive. Si on veut te suivre, toi, où est-ce que ça se passe?
Là, vous pouvez utiliser l'Instagram ou bien sur LinkedIn, qui c'est aussi Empower.
Merci beaucoup, Juliana. Je te souhaite une très, 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 très bonne continuation, une très bonne pratique. Amène plein de pratiquantes. Didier, je te souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.
Yes, super. Merci Armano, merci Juliana, c'était passionnant et on remettra le couvert, je l'espère, prochainement.
Merci à tous les deux.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.